La Franche-Comté.
Tu es une grande polissonne. Un vampire qui me dévorera comme une mouche.
Toute une histoire.
Elles sont 116. 116 lettres érotiques, sulfureuses, cachées, perdues, puis retrouvées dans le grenier de la bibliothèque de Besançon. Une correspondance entre Gustave Courbet et Mathilde Carly qui nous éclaire sur les doutes et la solitude du peintre. Condamné à rembourser la colonne Vendôme qu'il a participé à écrouler lors de la Commune de Paris, de retour à Ornans où il doit gérer l'héritage de sa mère qui vient de mourir, il tombe dans les griffes d'une femme mystérieuse, Mathilde Carly de Svasema. Celle-ci va mettre en place un stratagème destiné à soutirer de l'argent au maître du réalisme, une arnaque au sentiment de laquelle Courbet va parvenir à sortir grâce au soutien de ses plus fidèles amis. Je m'appelle Arnaud Fromage et je me suis rendu à la bibliothèque d'études et de conservation à Besançon pour rencontrer Bérénice Hartwig, l'une des conservatrices de l'exposition, qui dévoile ses lettres interdites.
La Franche-Comté, toute une histoire.
Il semble que Gustave Courbet ne cesse jamais de faire l'actualité presque 150 ans après sa mort. En haut des marches de pierre de la bibliothèque de Besançon m'attendent une partie des lettres de la correspondance que le peintre d'Ornans a entretenue avec Mathilde Carly de Svasema. Des lettres échangées entre novembre 1872 et avril 1873, où les deux expriment leurs fantasmes, réels ou imaginés. Or, si le parcours de Gustave Courbet est bien documenté, reste à savoir qui était la destinataire de ces lettres, qui était Mathilde, et c'est ma première question à Bérénice Hartwig.
C'est une femme qui a l'audace d'écrire à un homme, mais probablement plutôt à des hommes, qu'elle repère pour leur notoriété et donc éventuellement leur facilité à avoir de l'argent et à pouvoir généreusement en distribuer. Et elle écrit des mots très forts dès le début, en novembre 1872. Elle écrit « Le malheur nous a tous frappés ».
Et tous les jours, mon cœur pleure et saigne à la fois en pensant à la douleur infligée par la calomnie et par messieurs les journalistes qui ne doutent de rien. Vous êtes monsieur artiste et un artiste rempli de talent. Il y a plusieurs années que j'admire vos œuvres, plusieurs années que je désire vous connaître et vous voir.
Vous voyez qu'elle le brosse dans le sens du poil, qu'elle est très habile avec les mots. Et le 21 novembre 1872, alors que Paris a connu la guerre de 1870, la Commune, que Gustave Courbet a été impliqué dans cette histoire. Courbet a fait de la prison et il sort de prison. Il est reparti à Ornans auprès de son père. Il a perdu sa mère. Et donc peut-être que tout ça, elle l'a suivi dans les journaux. Elle le cherche, elle le trouve à Ornans et elle nous explique d'ailleurs même comment elle a retrouvé ses coordonnées.
Je suis allée demander votre adresse à Monsieur Carjat, qui est votre intime ami. Vous êtes si loin de moi que je ne puis aller vous voir. Cependant, j'aurais été si heureuse. Mais le bonheur, je le vois bien, n'est pas fait pour moi. Quand donc venez-vous à Paris ?
Courbet est flatté, il est très seul à Ornans, il a perdu toutes ses liaisons parisiennes et il est heureux de pouvoir correspondre avec une femme brillante, intelligente, qui le connaît, qui le cerne, qui sait trouver les mots pour le flatter.
Mathilde Carly de Svasema, c'est le personnage mystérieux de cette histoire. Il n'existe aucune photographie de cette femme manipulatrice, seulement un portrait dessiné bien plus tard par l'un des amis de Courbet.
Vraisemblablement, elle a sévi dans ces années 1870-1880. En fait, on retrouve même des procès d'elle à Paris. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur cette femme et puis peut-être sur cette pratique qu'on sous-estime, qui étaient des pratiques qu'aujourd'hui on appelle de brouteurs, hein, de personnes qui obtiennent de l'argent en flattant d'autres et en allant appuyer sur la sensibilité des personnes. Mais là, on a vraiment un beau portrait d'une femme, un peu scandaleuse, mais à redécouvrir.
Courbet, seul, déprimé, avec des problèmes d'argent, est une proie facile pour Mathilde. Il se livre sans filtre et la correspondance vire assez vite à l'intime. Courbet confie tout à Mathilde.
Sa vie familiale, son rapport à la peinture à cette période, nous confirme à quel point il a des moments de grande joie et de grande euphorie et des moments où il est absolument noyé dans le chagrin, dans les inquiétudes.
J'ai l'esprit tellement à l'envers que je ne sais plus écrire un seul mot de français ni d'orthographe. Excuse-moi, ma mémoire s'en va complètement, tu as absorbé ma nature. Je suis oppressé. J'ai le foie gros comme un chapeau. Je ne puis plus manger, je vais prendre une purge demain.
Comme il est assez seul, il ne parle pas avec ses amis en disant qu'il a rencontré une comtesse. Il l'écrit un peu à certains, il l'appelle la comtesse. En plus, au mois de novembre, décembre, janvier, elle reste très avenante et agréable et elle ne lui demande encore rien. Ils échangent tous les deux leurs problèmes d'argent parce que lui, il a quelques soucis, il doit vendre des tableaux. Il solde l'héritage qu'il a obtenu de sa mère, qu'il le redistribue à ses sœurs. Il aimerait pouvoir liquider ses biens parce qu'il a osé dire publiquement que cette histoire de colonne, si c'était qu'une histoire d'argent et qu'il fallait la repayer, il le ferait.
Cette histoire de colonne se déroule quelques mois plus tôt, à Paris, lors de l'épisode de la Commune. Courbet prend alors fait et cause pour le peuple qui se soulève, et le 16 mai 1871, il participe à la chute de la colonne Vendôme, au sommet duquel se trouve une statue de Napoléon. Problème, le peintre est photographié au pied de la statue à terre, il le sait, il va perdre son procès et sera contraint de payer pour une nouvelle colonne.
La Chambre des députés va décréter que je dois relever la colonne Vendôme à mes frais. Cette idée est insensée. Si ce vote réussit, nous sommes perdus, je serai peut-être obligé de m'exiler. Il devrait aussi me faire relever la maison de Monsieur Thiers, les Tuileries et l'Hôtel de Ville. C'est ravissant pour une nation d'avoir un homme comme moi pour faire des monuments, ah non ? Tu vas être obligé de m'aider, c'est toi qui remueras le mortier. C'est insensé.
Alors là, j'ai du mal à comprendre. Mathilde Carly de Sfazema cherche à soutirer un maximum d'argent à Gustave Courbet, qui lui écrit pourtant qu'il n'en a pas.
Oui, mais c'est un jeu de dupes, parce qu'elle-même se dit séparée de son mari, et on ne sait pas quels sont ses biens. Elle dit que son mari est parti en ne lui laissant rien dans l'été 1872. Elle nous fait larmoyer et on imagine qu'elle est absolument... complètement abandonnée dans un hôtel où elle n'a même pas d'argent pour se chauffer. Et c'est ce qu'elle écrit à Gustave Courbet. Et Gustave Courbet aussi explique qu'il cache sa fortune, mais puisqu'il dit qu'il cache sa fortune, c'est qu'il en a. À ce moment-là, on est en février ou mars, dans une complicité qui est déjà celle d'un couple. Voilà. Alors ils sont très troublants. On se demande... qui est dupe de qui et si vraiment ils se sont vraiment aimés et rencontrés. Gustave Courbet a gardé les lettres jusqu'en 1877.
L'envie qui me dévore n'a fait qu'augmenter. Vous êtes homme de génie.
La Franche-Comté.
Le génie n'habite pas toujours auprès de nous.
Toute une histoire.
Je suis à la Bibliothèque d'études et de conservation à Besançon, là où a été retrouvée la correspondance entre Gustave Courbet et Mathilde Carly de Sfazema. Une femme cupide qui va tenter et réussir, au travers de ses mots, à soutirer de l'argent au peintre. Courbet, désormais loin de Paris, a dû quitter son confort et ses maîtresses pour retourner à Ornans. Et ce qui marque dans ces échanges, c'est l'érotisme et les fantasmes que partagent les deux amants qui ne se sont pourtant jamais rencontrés. Et au détour d'une lettre, il me semble reconnaître la toile la plus célèbre de Courbet, L'origine du monde, une œuvre peinte en 1866 et gardée jusque-là secrète.
Je veux faire un portrait scrupuleux de ton grand con dans sa couleur merveilleuse. Je veux le faire sur un panneau qui doublera ma boîte de peinture. Je l'aurai toujours avec moi. Il enchantera mes rêves, où que je sois, qu'il pleuve ou que le ciel soit bleu, je l'aurai avec moi. Nous le ferons ouvert ou fermé. Dans les moindres détails. Nous ferons sa mode dorée avec ses frisettes, ses poils qui s'échappent, la naissance de tes belles cuisses, de ton ventre blanc et rebondi. Dans tous ces tons chauds, rosés, incarnat opale, dans toutes les nuances qui lui donnent la jouissance et qui l'inspirent.
Mathilde ne peut absolument pas imaginer de quoi Gustave Courbet lui parle. Elle ne peut pas imaginer qu'il existe déjà une toile... qui représente un sexe féminin grand ouvert. On reconnaît le peintre, on voit très bien se dessiner à nous ce tableau qui n'a été rendu visible au public qu'en 1995 à Orsay. Bien avant, il n'était absolument pas connu. Et elle répond à chaque fois à toutes ses sollicitations et elle lui répond à chaque fois dans des termes aussi crus que les siens en fait.
En 1873, quand Gustave et Mathilde correspondent, Courbet est âgé de 54 ans. Mathilde a 20 ans de moins que lui. Alors je demande à Bérénice Hartwig, co-conservatrice de l'exposition Les Lettres Cachées, qui les a donc toutes lues, si ces lettres sont uniquement du ressort du fantasme ou si ça va plus loin.
Il lui dit qu'il vieillit et qu'il aura peut-être plus tout à fait la forme pour la contenter. Il évoque ces fantasmes qui sont des fantasmes de plusieurs femmes à la fois, mais aussi de faire plaisir à la femme qu'il aime. Alors il est incroyable aussi dans sa liberté de ton et dans ce désir de faire plaisir à la femme qu'il tient dans les bras. C'est quelque chose qui peut paraître surprenant pour les hommes à cette époque, d'avoir ce souci-là. Et Mathilde lui répond, et lui répond aussi avec ses propres fantasmes. Elle lui dit « Mais pourquoi deux femmes et pourquoi pas deux hommes ?» Ce qui fait monter au créneau Gustave Courbet, qui se dit très jaloux. Mais c'est aussi étonnant de voir sa liberté à elle, de femme, qui lui dit « Mais j'entends tes fantasmes, écoute les miens. »
Une passion de courte durée, puisqu'au bout de quelques mois seulement, les lettres cessent. Alors qu'est-ce qui fait ouvrir les yeux à Courbet sur les vraies intentions de Mathilde ?
Alors Gustave Courbet a envoyé 100 francs, c'est une somme assez importante puisque un timbre coûte 5 centimes. Et assez vite après, il lui a promis deux toiles, une toile qui est un cadeau qu'il lui fait, mais elle annonce assez vite qu'elle va être obligée de vendre cette petite toile, que malheureusement elle l'aime beaucoup mais qu'elle ne peut pas la garder, qu'elle a trop besoin d'argent. Et puis il lui envoie, ou il lui fait préparer une plus grande toile, à charge pour elle de la vendre parce qu'elle dit qu'elle est marchande d'art ou qu'elle peut s'en sortir et vendre ce genre de biens. Et elle gardera une commission. Elle obtient cette toile au mois de mars et en avril-mai, elle fuit quand elle doit répondre aux questions. Elle explique que son client doit hériter mais qu'il attend l'argent. Et donc Gustave Courbet la presse et lui demande de payer. Et ses amis, Cherubino Pata, Ordinaire, s'en mêlent. Cherubino Pata finit par aller à Paris pour d'autres raisons familiales, rencontre Mathilde Carli de Svazema, comprend que ce n'est pas la femme de bonne famille qu'elle a. Enfin, elle est une fille de bonne famille, mais elle est tombée assez bas et elle ne paye pas ses domestiques, elle ne paye pas son loyer. Et donc, toutes ces preuves commencent à inquiéter tous les amis de Gustave Courbet et Gustave Courbet lui-même, qui, au mois de mai, arrête d'écrire à Mathilde, qui continue à le harceler par ses lettres, à le chercher et même à venir à Besançon et à Ornans pour le rencontrer. Gustave Courbet se cache, il ne veut plus la voir, il a compris qui elle était, ses amis l'ont mis en garde. Et donc pour se protéger, pour ne pas retomber dans ses filets, il s'éloigne dès qu'elle approche.
C'est alors que Gustave Courbet met en place un stratagème destiné à éloigner Mathilde en jouant sur ses failles, notamment sa cupidité.
Il lui dit que tous ces fantasmes qui se sont écrits dans ces 100 lettres pourraient être édités, pourquoi pas à Bruxelles, chez Poulet Malassi, et rapporter 5000 francs. Cette somme, évidemment, intéresse Mathilde Carli de Svazema, et elle accepte, alors là c'est absolument incroyable, de rendre des lettres de Gustave Courbet, alors qu'elle avait entre les mains des preuves qui pouvaient aussi la mettre un peu elle-même en danger. Alors elle rend 25 lettres et elle en garde une dizaine ou peut-être une quinzaine. Courbet donc garde les lettres de Mathilde et c'est probablement Cherubino Pata qui, armé de quelques preuves et en particulier des preuves que Mathilde Carli n'a pas payé le tableau ni le cadre qu'elle a fait faire pour le tableau, arrive au mois de juillet 1873 à faire arrêter Mathilde.
Juillet 1873, exactement au même moment où Courbet, de son côté, quitte Ornans pour se rendre en Suisse, où il décédera 4 ans plus tard. Mathilde Carli de Svazema est donc arrêtée. Alors qu'est-ce qui advient d'elle ?
Elle est revenue à Besançon et elle aurait mieux fait de rester à Paris. Et le bien public nous annonce qu'on lit dans l'Union que la police de Besançon a arrêté le 23 juillet deux chevaliers d'industrie qui paraissent avoir fait un certain nombre de dupes. Ce sont le nommé Georges G, âgé de 30 ans, né à Bombay, en Inde, et la femme Mathilde M.C. de S, donc on connaît son nom, Mathilde Carli de Svazema, âgée de 35 ans, née à Orléans, Ces deux individus sont accusés d'escroquerie et de vagabondage. Et on apprend qu'elle obtenait régulièrement 20 ou 50 francs. Donc on voit que Gustave Courbet a été très généreux puisqu'il lui a envoyé 100 francs. Et que cette correspondance multipliée lui procurait assez de ressources pour mener une vie d'oisiveté et de luxe. Cet article semble nous faire penser qu'elle gagnait très bien sa vie grâce à ses stratagèmes. C'est peut-être pas tout à fait le cas.
Mais au final, Mathilde Carly, demi-mondaine ou arnaqueuse en série pour l'heure, impossible de trancher entre les deux hypothèses, même si elle continue de faire parler d'elle dans les rubriques faits divers des journaux de l'époque.
On voit qu'elle est arrêtée de nouveau en 1875, en 1877 à Paris, et cette fois-ci pour affaire de proxénétisme. Donc vous voyez qu'elle est tombée encore plus bas. Et en 1886, de nouveau dans l'Aube, cette fois-ci une escroquerie auprès d'un photographe. Ce procès-là est plus gentil, mais elle est acquittée dans l'Aube, arrêtée évidemment pour le proxénétisme à Paris.
À partir de 1886, Mathilde Carly de Sfazema disparaît complètement de la circulation. Le reste de sa vie reste encore à ce jour inconnu. La correspondance sulfureuse qu'elle a entretenue avec Courbet, elle, est cachée et finit par tomber dans l'oubli. Depuis 1905, elle dormait sous la poussière, dans un meuble, à la bibliothèque de Besançon. Dans les années 60, la bibliothèque s'agrandit et c'est à ce moment-là que les lettres sont retrouvées, un peu par hasard.
Un meuble est monté au grenier, plein de faire-part, plein de papiers et de lettres qui n'avaient pas encore été traités, parfois parce qu'ils étaient encore sous le sceau du secret de la vie privée. Et ces lettres-là, en plus du sceau du secret de la vie privée, avaient un côté tellement sulfureux qu'elles ne pouvaient pas être dévoilées immédiatement. Le conservateur est parti à la retraite et n'a pas transmis cette information à la conservatrice suivante, ce qui fait que les lettres se sont perdues, elles ont été complètement oubliées. Et on les a retrouvées en novembre 2023 en cherchant d'autres documents dans ce même grenier.
Reste une ultime question, qui a déposé les lettres à la bibliothèque? Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été retrouvées dans les affaires personnelles de Courbet?
On a un manuscrit de papier qui a été donné par le docteur Blondon, qui était légataire testamentaire de Gustave Courbet. Et on pense qu'il a eu la pile de papier qui a pu être inventoriée et mise à disposition du public, et cette autre pile qui avait été cachée. Probablement, les deux ont dû arriver en même temps, au début du XXe siècle. La raison pour laquelle on pense que c'est le docteur Blondon qui les a eues entre les mains, c'est qu'il paraît impossible que Juliette Courbet, qui était la sœur de Gustave Courbet, qui est morte en 1915, ait pu avoir connaissance de ses papiers. Elle a, semble-t-il, brûlé des photographies de modèles nus que possédait Courbet. Donc vraiment, une correspondance comme celle-là, c'était absolument impossible de conserver ça pour le grand homme, pour la mémoire du grand homme.
L'intégralité de la correspondance entre Gustave Courbet et Mathilde Carly de Sfazema est publiée dans la collection Arts et Artistes chez Gallimard. Sa lecture est déconseillée aux mineurs et aux personnes sensibles. Merci à Bérénice Hardwig, co-conservatrice avec Pierre-Emmanuel Guilleret et Ludovic Carré de l'exposition Les lettres cachées à la Bibliothèque d'études et de conservation de Besançon. Lecture, Sébastien Barberon et Nadine Berland de la compagnie Terra Luna. Mixage, Alexis Defranou. La Franche-Comté, toute une histoire, est un podcast original, ici Besançon.